Là où je vous emmène, il y a des éléphants, des primates, des oukoumés, des moabis. Bienvenue au Gabon. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast The Musette. The Musette, c'est le média des expatriés entrepreneurs qui se réalisent aux quatre coins du monde. Dans ce nouvel épisode, on part en Afrique, en pleine nature, avec un environnement culturel spécifique, conversé avec Claire, fondatrice de Akibé. Un projet fou de création d'une marque de shampoing solide, avec des valeurs éthiques, environnementales et comme maître mot, le respect. Malgré un regard parfois pesant sur ce statut de femme d'eux que peuvent avoir les locaux, Claire fonce dans sa nouvelle aventure entrepreneuriale. Bonne écoute. Bonjour Claire et bienvenue sur le podcast de The Musette. Je suis ravie de te recevoir pour cette conversation à distance entre Amsterdam et Port-Gentil au Gabon.
Bonjour Adeline, merci de me recevoir sur ton podcast The Musette.
Le Gabon, quelque part, ça fait rêver. Avant, tu étais à Dubaï et là, changement radical de culture, de vie. Alors, comment était ta vie à Dubaï et comment s'est passée votre arrivée à Port-Gentil?
Alors oui, effectivement, entre Dubaï et le Gabon, c'est les opposés. Je pense qu'on ne peut pas faire plus différent. Disons que l'adaptation s'est très bien passée. On s'était préparé et on avait envie de changement. Donc, au moins, c'est un vrai changement. La vie à Dubaï, c'était super, on a adoré, on y a vécu 7 ans et mes trois fils sont nés là-bas. C'est une vie vraiment très facile et avec beaucoup de points très positifs, une culture super. Et le Gabon, c'est complètement différent, mais il y a aussi plein de points positifs, et, plein de choses vraiment plus proches de la nature, plus proches des gens, de la population. Et du coup, c'est aussi... une expat super. Donc voilà, on est content, on est heureux.
Content de ces deux expériences. Et dis-moi, voilà. Je rebondis sur quand on pense à Dubaï, je fais juste un petit aparté là-dessus. On pense luxe, cocotier, des choses très clichés. C'est vrai ou pas?
Alors, on va pas dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de luxe à Dubaï, il y en a. Qu'il n'y a pas de richesse à Dubaï, il y en a. Mais c'est une très grande ville, Dubaï. Il y a autant, comme dans toute grande ville, il y a autant de façons de vivre à Dubaï que de personnes, on va dire. Là, j'ai rencontré une fille qui a eu une vie à Dubaï totalement différente de la mienne. Moi, j'ai eu la chance d'être proche des populations immigrées de Dubaï, mais plus pauvres, des Pakistanais, des Philippins, etc., parce que j'ai dirigé une usine sur place. Donc, j'ai été très proche de ces personnes-là. Donc, j'ai appris à aussi connaître ce deuxième visage de Dubaï qui n'est pas le même que le visage des expats riches qui roulent en Porsche sur Sheikh Zayed Road. Donc moi, j'étais un peu entre les deux. J'ai vu les deux côtés. Et c'est surtout une culture, un melting pot énorme avec un respect mutuel entre les cultures qui est vraiment super.
Qui est très riche.
Très très riche et un respect, il n'y a pas de jugement en fait. On pourrait croire que ce pays est assez, on pourrait penser qu'il est fermé, que ce soit pour les femmes. Moi j'ai eu un poste de direction sans aucun problème et j'ai jamais eu l'impression d'avoir aucun problème en tant que femme. On m'a jamais jugée, j'ai vraiment jamais eu de souci d'être une femme, même presque moins qu'en France je pense. D'être d'une culture différente, d'une religion différente, c'est pareil. Il y a vraiment presque moins de tensions qu'on peut trouver en France.
On n'aurait pas imaginé, hein. Enfin, voilà. Dans notre esprit, on n'a pas ça.
Ouais, voilà. Mais en fait, il y a vraiment, dès le plus jeune âge, les enfants sont habitués à vivre avec, à être à l'école avec des Indiens qui mangent avec les mains. Et on leur dit que finalement, contrairement à ce que les grands-parents leur disent à la maison, hein, quand ils rentrent l'été, manger avec les mains, c'est pas sale, c'est juste une autre façon de faire. Ils voient des petits-enfants qui mangent avec des baguettes ou d'autres, toutes les cultures sont mélangées et dès le plus jeune âge, les enfants sont, biberonnés à ça et n'ont aucun problème avec les différences culturelles des uns et des autres.
Alors justement, je rebondis sur, tu notes forcément des différences culturelles entre le Gabon, la France et Dubaï où tu as été. C'est lesquelles t'ont le plus marqué?
Je dirais Dubaï, moi je l'ai vraiment vécu comme une ouverture à toutes ces cultures, etc. Même s'il y a des côtés obscurs également. Le Gabon, ça fait peu de temps que j'y suis, hein. Là ça fait 8 mois à peu près. dont 3 mois à moitié confinés, donc voilà. Je dirais que le Gabon, en fait, je retrouve justement pas ce mélange qu'on avait, qui était très riche à Dubaï. Il y a vraiment deux cultures, c'est-à-dire il y a les Blancs et il y a les Gabonais. Et c'est plus difficile, je trouve, de se mélanger et de vraiment interagir sans tension, de façon complètement naturelle, parce qu'il y a toujours une tension, en fait, qui est là. Et ça, je trouve ça dommage. J'essaye au maximum de faire en sorte d'aller vers les gens pour essayer de les connaître mieux. Mais c'est vrai que c'est moins facile. Il n'y a pas une culture d'expat, de vie melting pot comme on peut avoir à Dubaï. C'est plus une culture. Il y a les Français et les Gabonais et il y a un historique aussi, de la colonisation qui est là, qui fait que bon, ça pèse un petit peu.
Alors donc
Voilà.
c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que Port-Gentil, c'est la ville des expats ou c'est différentes communautés d'expats avec des locaux qui sont bien intégrés ou voilà?
Ben, en fait, Port-Gentil, c'est une ville, là, c'est la capitale économique, donc là où il y a tout le pétrole. Et donc, il y a les expats qui sont là, qui vivent en famille. Alors, bien sûr, on se mélange un petit peu avec les Port-Gentillais, mais il y a quand même une séparation, en fait, qui est assez importante. On le sent et, bon, on n'est pas intégré. Les expats, en plus, ici, bougent beaucoup. Ils restent pas très longtemps. Ils restent 2, 3 ans. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, surtout en ce moment. Il y a un peu deux vies parallèles quand même.
D'accord. Comme je le disais, donc tu as vécu 7 ans à Dubaï et 2 ans au Gabon. As-tu senti un regard bienveillant, malveillant, inquiet, d'envie ou neutre, enfin, voilà, sur ton statut d'expat?
Je pense qu'il y a un regard de la part des Français, de la famille, tu veux dire?
Ouais, et puis ouais, voilà, exactement,
Les
c'est plus.
amis,
Ouais,
etc.
exactement, oui.
Ouais. Il y a un regard qui est assez faux, en fait. Ils pensent que, ils voient nos photos, hein, qui sont un peu paradis, que ce soit à Dubaï ou ici. Mais bon, à Dubaï, il faut savoir que Dubaï, la vie est très, très chère. Nous, on n'est pas des expats payés par des très, très grosses boîtes. Donc, à Dubaï, il fallait qu'on passe tous les deux. Moi, je bossais beaucoup. Mon mari aussi. C'était une vie à 200 à l'heure. Bon, on a adoré ça. Hein, c'était super. Mais il fallait le vouloir, quoi. Fallait bosser. Et à Dubaï, il n'y a pas des jours fériés. Là, je redécouvre les jours fériés. Hein.
Ah oui, là en France, c'est
Parce
le
qu'à
restaurant.
Dubaï, il n'y a pas des jours fériés tous les 3 jours. Il y en a 2 par an et voilà. Il y a 4 semaines de vacances par an, donc c'est vraiment très peu. Quand on est en congé mat, moi j'ai fait deux congés mat à Dubaï, c'est 4 semaines en tout et tout pour tout, donc voilà, faut le gérer. Donc les choses sont pas les mêmes, donc faut le vouloir, faut prendre des risques aussi. Et puis le Gabon, bon oui, ça peut paraître super, la plage et tout, mais bon, il y a aussi l'insécurité. Alors ici, il n'y a pas d'insécurité physique au sens de se faire voler, se faire attaquer ou quoi que ce soit, mais il y a aussi une insécurité sanitaire. On chope quand même quelques petites maladies exotiques, pas toujours très sympa. Voilà, il n'y a pas les hôpitaux comme on pourrait avoir en France pour se rabattre si jamais il y a le moindre pépin. On est isolé. Voilà, c'est une vie, c'est un choix de vie, mais on l'a voulu, donc on s'en plaint pas du tout.
Mais c'est pas si
Voilà,
carte postale, quoi. C'est pas si carte postale.
c'est pas une carte postale qui nous est offerte sur un plateau gratuitement et tout nous est. Voilà, c'est pas un cadeau. C'est nous qui l'avons choisi et voulu et acheté. Enfin, on est allé le chercher, quoi.
Bien sûr.
Voilà,
Et
en prenant des risques.
est-ce que tu as été considérée comme étant la femme de?
Alors, à Dubaï, pas du tout. Mais ici, c'est terrible. Ici, quand on se présente, on te demande, t'es quoi, toi? Et en fait, t'es quoi? Il faut répondre, la boîte de ton mari. Voilà. Donc, les femmes se définissent par la boîte de leur mari. Donc, en fait, parce que ça permet aux autres de savoir, en gros, quels avantages on a. Parce que selon qu'on est un tel ou un tel, telle ou telle boîte, on a différents petits plus ou quoi.
Ah, Oui, mais c'est lourd à porter, en fait.
Ouais, franchement, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, moi, j'ai tout de suite, comme moi, j'avais mon projet avant de partir, j'ai tout de suite dit que moi, j'étais. Bon, déjà, moi, mon mari ne fait pas partie de ces grosses boîtes. Il est dans une petite boîte assez indépendante. Donc, moi, je ne fais rien du tout et je suis en train de créer une marque de cosmétiques.
Oui, c'est pas évident. On va y revenir sur ça. Je voulais juste finir. Qu'as-tu appris sur toi avec cette vie à l'étranger?
Ah, j'ai appris à m'adapter, ça c'est sûr. Et je pense que j'ai appris l'ouverture d'esprit aussi, de ne pas avoir de préjugés, d'essayer d'arriver sans préjugés, ou avec le moins de préjugés possible, et d'essayer de comprendre pourquoi les personnes étaient comme ça ou comme ça. Parce qu'en fait, bon, les personnes sont très différentes de nous dans toutes ces cultures qu'on a pu côtoyer, mais il y a des raisons pour lesquelles elles sont comme ça. Et finalement, il faut arriver à comprendre les raisons et les accepter et pas vouloir les faire changer, surtout pas vouloir les adapter à nous, mais nous s'adapter à eux. Donc, c'est vraiment ça que j'ai appris, je pense, une ouverture d'esprit, oui. Au début, à Dubaï, j'avais vraiment du mal à comprendre la façon de se comporter des Indiens qui ont le cercle personnel, ils en ont une notion très différente de la nôtre, donc ils rentraient toujours dans ma sphère privée, quoi. J'avais vraiment du mal à le vivre et je m'y suis habituée. Et bah, c'est pareil avec beaucoup de cultures finalement.
Bien sûr. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Alors, certes, tu es expat, certes, tu es conjoint suiveur, entre guillemets, donc parce que tu as suivi ton mari, mais ce n'est pas que ça qui te définit. Tu as profité de ton temps d'expatriation pour devenir entrepreneur. Donc, tu développes un super projet hyper original, génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi ce nom de Akibé?
Alors, Akibé, donc en fait, ce projet, je le mûris depuis assez longtemps, je dirais même 3-4 ans. Pas tel quel, il a beaucoup bougé, mais ça fait longtemps que moi, je voulais lancer une marque de cosmétiques. Je suis dans la cosmétique depuis toujours. Et donc, à l'occasion du départ au Gabon, c'était vraiment le petit coup de qui m'a lancé, qui m'a dit, bon, je pars au Gabon, je me lance. Et du coup, je voulais faire des cosmétiques, donc parce que c'est mon métier. Je voulais faire des cosmétiques écologiques et quelque chose d'éthique aussi, parce que j'ai travaillé longtemps avec des workers, par exemple à Dubaï, et je trouvais qu'il y avait vraiment un gap important entre bah, ce que les propriétaires pouvaient se mettre, pouvaient gagner, et ce que ces gens-là qui produisent finalement gagnent. Il y a une trop grosse différence. Il faut remettre la valeur là où elle est aux gens qui produisent. Donc, j'ai créé Akibé. Donc, Akibé, ça veut dire respect en fan. Donc, le fan, c'est un dialecte du Gabon. Donc, c'est pas le seul. Il y a plusieurs dialectes au Gabon qui sont parlés. C'est un des dialectes du Gabon. Donc, ça signifie respect. Et pour moi, respect, c'était vraiment un mot clé pour moi, parce que respect de la nature, donc des cosmétiques écologiques, respect des hommes, donc éthique, en essayant de payer correctement les personnes, les productrices, les personnes qui vont faire les matières premières qui rentreront dans ces produits, et respect aussi du consommateur, avec une très grande transparence. Vraiment, moi j'ai pratiqué pendant des années le marketing, comme le marketing comme il s'entend vraiment par le mot le plus basique, c'est-à-dire essayer de faire vendre quoi, en mettant un petit peu de poudre de perlimpinpin dans les produits. Et ça, j'en ai assez. Voilà, moi j'en peux plus de mettre des choses qui ne servent à rien. Donc mes produits sont simples. Et en disant tout aux consommateurs.
Oui, parce que
Vraiment tout.
c'est vrai que toi, dans tes shampoings que tu fais, parce que c'est un projet avec de shampoings, c'est quand on lit les ingrédients, voilà, c'est très clair, il y a peu d'éléments, quoi. C'est
Oui,
l'essentiel.
donc du coup, j'ai choisi de faire des shampoings solides pour commencer. Donc ce sera que des cosmétiques solides pour que ce soit bien écologique et qu'il n'y ait pas de packaging. Et oui, dans mes shampoings, il n'y a que 8 ingrédients. Et je les ai vraiment choisis avec le plus grand soin. Bon, c'est mon métier de choisir les ingrédients, de faire la formulation. C'est ce qu'on appelle la formulation, c'est-à-dire l'art de mélanger les ingrédients ensemble pour en faire une formule. Et j'ai vraiment choisi le minimum d'ingrédients possible, seulement ceux qui sont vraiment utiles pour obtenir laver les cheveux en l'occurrence. Et vraiment le minimum d'ingrédients, choisis avec le plus grand soin, au maximum localement, et de façon la plus éthique et la plus écologique.
Et pourquoi le shampoing en premier? Est-ce qu'après tu veux développer d'autres choses ou tu veux rester là-dessus?
Non, oui, dans le futur, je développerai d'autres choses. Je pense développer d'autres produits, toujours solides, parce que je crois vraiment que c'est l'avenir d'arrêter de mettre de l'eau dans les produits. Mais j'ai commencé par les shampoings parce que c'est des produits qui sont aussi. Le choix s'est fait aussi parce que techniquement, c'est des produits qui sont peut-être moins compliqués à fabriquer, avec moins de matériel. Donc pour commencer, c'était plus simple pour moi.
Bien sûr.
Et aussi, c'est des produits de tous les jours. Voilà, le savon, ça existe déjà. Il y a plein de gens qui font du savon de façon artisanale. Le shampoing, moins. Voilà. Mais c'est quand même des produits qui s'utilisent tous les jours, du quotidien. Donc, l'impact de changer ce produit-là dans sa douche, ça va avoir un vrai impact environnemental. Alors que pour le coup, la crème de jour, on en achète peut-être un pot tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, ça dépend des personnes. Donc l'impact de ce plastique-là est beaucoup moindre que l'impact du shampoing.
Là, je comprends. Et justement, on disait là, les produits cosmétiques bio, sans emballage, respectueux de l'environnement, ils avancent fort sur le marché. Donc, toi, tes valeurs, c'est pour te différencier. C'est le respect, c'est l'éthique. Il y a quelque chose que
Et
tu
c'est
veux rendre.
l'Afrique.
Et
Et
c'est
c'est
l'Afrique.
l'Afrique.
Ouais.
Clairement, j'ai aucun concurrent qui fait du shampoing solide en Afrique.
Ah bah oui,
Voilà.
c'est nouveau ça.
C'est un peu nouveau quand même. Fallait être expat en Afrique pour le faire. C'est l'Afrique et du coup, je peux y amener une chaîne de valeurs, le développement d'ingrédients locaux. Vraiment, j'ai fait un travail important sur des ingrédients innovants, tout nouveaux ici, qui viennent du Gabon. Donc, par exemple, il y a le Moabi, c'est un arbre qui met 70 ans à grandir qui est dans les forêts, qui est un arbre menacé parce qu'il a été longtemps utilisé pour le bois. Cet arbre fait des fruits qui tombent au mois de juin et les femmes recueillent les fruits, prennent les noix qui sont à l'intérieur et le presse, etc. Et ça fait un beurre qui ressemble pas mal au beurre de karité finalement, qui est très nourrissant, très riche. Donc j'ai intégré ce beurre de Moabi dans mes produits, par exemple.
Ouais, mais donc tu as une vraie histoire derrière ton shampoing solide. C'est pas que faire ça comme ça. C'est que voilà, y a toute une histoire avec le pays et tout ce qu'ils offrent. Et avec une saisonnalité, j'allais dire, puisque voilà, il y a les fruits qui arrivent en juin, quoi. C'est pas tout le temps.
Non, c'est pas tout le temps. Malheureusement, j'avais pour projet d'aller visiter ces femmes parce qu'elles habitent dans des forêts qui sont loin, etc. Là, au mois de juin, et à cause du coronavirus, on est tous bloqués. Là, on n'a pas le droit de bouger, en fait. Au Gabon, en ce moment, on n'a pas le droit de changer de province, en fait.
D'accord.
Je pourrais pas aller les voir, malheureusement.
Compliqué, ouais. Juste avant de là-dessus, je voulais aussi savoir, parce que bon, monter un tel projet comme ça, c'est pas tous les jours. C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé pour pouvoir monter ça?
En fait, j'avais déjà réfléchi à un autre projet quand j'étais à Dubaï. Donc, j'avais déjà pas mal travaillé, business plan, etc. Donc, dès que j'ai su, en fait, c'était au mois d'avril l'année dernière qu'on partait au Gabon, qu'on a pris cette décision de famille, j'ai tout de suite activé ce projet. C'était pas encore bien clair dans ma tête, mais j'ai rapidement acheté à Dubaï le matériel dont j'aurais besoin. Pour la production et pour le laboratoire. Lorsque mon mari est parti pour faire un repérage de maison ici au Gabon, je lui ai dit, il me faut un local pour mon travail. Donc, c'était dans le cahier des charges, il faut mon local. Voilà. Donc vraiment, c'était planifié. Tout le matériel est parti avec le conteneur au mois de juin, avec le conteneur de la famille. Et donc, quand je suis arrivée en août, quasiment tout était là. Déjà, un peu, les bases étaient là. Vraiment, dès le début, je me suis présentée tout de suite aux gens comme je suis en train de créer une marque de cosmétiques solide. C'était pas encore clair, il n'y avait pas encore le nom, etc. Mais le fait d'en parler dès le début, en fait, Ça m'a permis, certaines personnes qui étaient là depuis longtemps m'ont dit, ah, tu devrais contacter un tel, tu devrais aller voir telle personne pour t'aider à créer la structure légale, etc., etc. Et du coup, ça s'est fait quand même assez vite. Je crois que début octobre, j'avais déjà la structure légale de créer. Et ensuite, voilà. Donc après, j'ai pris du retard à cause du corona. Donc ensuite, dès que j'ai eu toutes mes matières premières qui sont arrivées, ça a mis un peu plus de temps. J'ai commencé le travail de recherche et développement, mais bon, j'avais déjà fait beaucoup de recherches sur papier. Donc au laboratoire, j'ai commencé la recherche et développement, les tests. Donc j'ai sélectionné une dizaine de personnes ici à Port-Gentil pour tester pour moi les shampoings, qui me faisaient des retours, etc. Pour que vraiment je les peaufine au maximum. Et je crois que fin décembre, on avait les formules finalisées. J'ai passé commande, j'ai finalisé les matières premières, etc. J'avais prévu de lancer début avril, mais finalement, je lance demain. Donc
Voilà.
demain, les produits seront disponibles à la vente.
Et donc, The
Voilà.
Musette est au taquet, The Musette t'accompagne. Et alors,
Merci.
donc, ce qui ressort, c'est que tu as quand même réussi à créer des liens avec les locaux aussi pour t'aider. Bon, sûrement des expats pour avoir des retours, mais avec les locaux pour t'aider, pour te renseigner. Et comment ils ont accueilli ton projet?
Ah bah plutôt bien en fait. Oui, j'ai trouvé pas mal quand même, pas mal de gens, même des chercheurs locaux et tout que je suis allée voir. Les gens sont plutôt contents en fait de voir des gens qui veulent se bouger vraiment pour faire des projets ici. Après, ils sont toujours un peu sceptiques, ils disent toujours oui. Alors bon courage, hein.
Bon,
Ouais, d'accord. Ça...
ça
l'air
c'est dit, ça
un
c'est
peu
dit.
sceptique. Oui, parce que bon, au niveau administration, etc., bon, c'est compliqué. Il y a quand même des choses compliquées ici. Mais bon, finalement, en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui abandonnent, qui ont peut-être pas autant l'envie. Il y a pas mal de femmes ici qui viennent, qui ont un peu l'envie de faire quelque chose, mais pas si fort que j'avais. Et voilà, donc. Si on est tenace, ça passe quoi.
Ouais, bah bien sûr. Et ton entourage familial, amical, comment il a réagi? Parce que se dire, je me mets à la place de ta maman, ma fille est au Gabon, il va créer du shampoing solide et il n'y a personne autour, tu vois? Ça a été positif, ça a été.
Non, c'est plutôt positif, ouais, parce que je pense que l'inquiétude qu'ils avaient, surtout oui, ma famille, c'est que ils savent que je suis très active, que je peux pas ne pas bosser, en fait, que je suis pas vraiment pas faite pour être femme au foyer à attendre que ça se passe. Donc l'inquiétude quand je suis partie au Gabon, c'était plus elle va s'ennuyer, ça va pas lui plaire, etc. Et le fait que j'ai ce projet, ça change les choses.
Bien sûr.
Et je pense que voilà, après, les gens s'inquiètent peut-être un peu de savoir si ça va marcher, mais ils me font confiance, je pense.
N'y a pas de raison, y a pas de raison. C'est un très beau projet. Toi, donc comme tu disais, tu travaillais pour des entreprises de cosmétiques avant. Tu sens un
Oui.
réel changement chez les consommateurs? Réelle envie de
Oui.
consommer, tu vois, consommer mieux?
Une réelle envie de comprendre, de savoir ce qu'ils ont dans leurs produits. Je pense qu'il y a vraiment une frange de la population qui a envie de savoir ce qu'ils ont dans leurs produits. Il y a eu l'engouement vers ces applications, mais c'est vraiment les applications. En fait, moi, je les ai testées. C'est quand même assez peu satisfaisant finalement. Ça donne une note, on comprend pas toujours bien pourquoi. C'est assez obscur quand même. Et moi, j'ai choisi de pas aller vers ça, mais d'aller vers l'explication. L'explication complète de ce qui se passe. Alors, ça demande à la personne de s'investir un peu parce qu'il faut lire ou écouter ce que je raconte. Mais au moins, voilà, je pense qu'il y a une frange de certaines personnes qui cherchent ça. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, mais de toute façon, j'ai pas l'ambition de toucher tout le monde non plus. Voilà, je veux pas devenir une énorme marque. C'est pas, pour moi. Voilà, développer la marque pour faire vivre un certain nombre de personnes et bon, vivre aussi un petit peu moi-même. Et voilà, ça me suffit. Je souhaite pas devenir un mastodonte.
Oui, bien sûr, parce qu'après,
C'est
c'est
pas
beau,
mon
hein.
ambition. C'est pas mon ambition du tout. Voilà.
Oui, et puis bon, tu fais vivre en effet des familles locales là-bas, donc c'est tout à ton honneur, c'est
Voilà.
bien.
Moi, mon ambition, c'est de faire des bons produits dont je suis fière et dont je suis contente et dont les clients sont contents aussi. qui font vivre des gens bien et voilà.
Ok, très bien. En te lançant dans cette entreprise complètement folle, hein, je trouve passionnante, as-tu rencontré des obstacles et quelles solutions as-tu pu mettre en place?
Des obstacles, il y en a tous les jours. Je pense que le plus dur, c'est la communication, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment une technique. Je suis ingénieure. Je suis assez terre à terre. J'avais pas du tout confiance en moi sur la communication. Alors, je suis passée par plusieurs phases. D'abord, mon mari m'a dit la communication et la vente. Bon, la vente, je m'y suis pas encore vraiment confrontée. Mais la communication est vraiment. Au début, j'ai voulu m'associer avec quelqu'un, et puis ça s'est pas fait, qui se serait occupé de la com. Après, j'ai voulu passer par une agence de com parce que j'avais vraiment pas confiance en moi. Je me disais, je vais pas m'en sortir, je vais pas savoir faire ça. Et en fait, les gens étaient pas sérieux. Je me suis fait un petit peu, ouais, ça s'est pas bien passé. Finalement, j'ai repris les choses en main. J'ai tout repris toute seule. Et oui, apprendre ça, ça a été un peu dur pour moi. C'est un peu me faire violence. Mais sinon, bah, plein de petits soucis. Hein. Il y en a eu des tas. Bon, le coronavirus en fait partie, par exemple, où j'ai eu un colis bloqué en France pendant presque 3 mois. Ce genre de choses. Mais bon, on passe par là. Après, je pense que j'ai eu aussi. Bon, avant, j'ai eu un poste. J'étais directrice d'une usine de cosmétiques. Et des problèmes, j'en gérais tous les jours. Donc j'ai l'habitude de gérer des soucis, des problèmes. Enfin, et de comprendre. Je sais que bon, faut les prendre un par un et avancer quoi. Enfin, il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, je les prends, je les résous un par un, petit à petit, et puis ça passe.
Bienvenue dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Donc,
Voilà.
la prochaine étape, c'est quoi?
Ben, la prochaine étape, c'est de les vendre. Maintenant, c'est vraiment de voir comment le marché va réagir à tout ça, d'arriver à vendre les produits, que ce soit au Gabon et en France. C'est le test de cet été. Mon but, c'est que cet été, j'arrive à vendre voilà, 2000 shampoings. Si j'ai vendu mes 2000 shampoings ou moins 1000 à la fin de l'été, ça voudra dire que le projet, il tient debout et que je peux vraiment partir sur l'investissement et passer à la deuxième étape, c'est-à-dire avoir un local, embaucher des gens en propre, parce qu'aujourd'hui j'ai personne, et vraiment développer les choses à un peu plus grande échelle.
Ça, c'est, je te le souhaite tout cœur, ça va marcher.
Voilà.
Ton projet, donc, il est tout nouveau, mais quel conseil donnerais-tu à celui ou à celle qui veut se lancer, même en étant à l'étranger?
Alors, il y a un truc, moi, que j'ai découvert. Au début, je gardais beaucoup pour moi. C'est-à-dire, c'était un peu mon petit projet, mon petit, voilà. Il était très secret, même mon mari n'en savait
Ah oui.
rien. C'était mon petit truc, tout caché, parce qu'en fait, mon mari est quelqu'un de très exigeant. Donc, je ne pouvais pas lui présenter, lui parler de quelque chose qui n'était pas fini dans ma tête déjà. Sinon, il allait me poser des questions et ça n'allait pas passer. Donc, c'était vraiment très fermé. Et quand j'ai commencé à en parler, bah, ça m'a ouvert beaucoup de portes, en fait. Donc, en parler à tout le monde un peu, ça m'a ouvert des portes, ça m'a valu des encouragements aussi. Et ça fait du bien quand même.
Bien sûr.
Des gens qui disent, oh, c'est super, t'as l'air trop bien ton projet, on repart, on se redonne un peu
De
de
boost.
fuel, de boost, quoi. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça, c'est en parler, je
En
pense,
parler, ne
vraiment.
pas avoir peur. Ouais,
Ouais.
parce que
Et ne pas avoir peur, y aller, quoi. Y aller, prendre des choses. Il y aura des problèmes de toute façon, des difficultés, c'est sûr, mais ben, voilà, y aller. Après, aujourd'hui, je suis pas capable de dire si je réussis ou pas, donc donner des conseils, c'est un petit peu difficile.
Oui, mais déjà, tu as passé le cap de franchir, de passer, de dire, bon, bah, j'y vais, je me lance, je le
Oui,
fais et
oui.
j'en parle. C'est pas du tout évident de le faire. Donc,
Oui,
c'est un
c'est
gros
sûr.
step, c'est un gros step, ça.
C'est vrai.
Tout ce chemin parcouru, que ce soit avec l'expérience de l'expatriation et le lancement de Akibé, est-ce que c'est pour toi la définition du succès?
Ah, la définition du succès, c'est difficile.
Mmh.
Oui, je pense que là, moi, je me rapproche de quelque chose qui se rapproche de plus en plus de ce dont j'avais rêvé pour dans ma vie quand j'avais 16-17 ans, parce que moi, j'ai voulu être dans la cosmétique depuis mon adolescence. Donc, je pense que oui, un équilibre familial un peu meilleur qu'à Dubaï, ma marque qui se lance, plus proche de la nature. Donc oui, il y a ça. On va voir comment ça se passe. Ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc, faut pas le négliger. Mais moi, il fallait que je le fasse. Il y avait un jour où il fallait que je le fasse pour au moins m'y confronter
Bien
et
sûr.
voir ce que ça donnait. Et bah oui, ouais, c'est voilà. On est sur la bonne voie.
Et tes enfants, ils sont, je suis pas sûre de toi de se dire, maman, elle monte un gros projet quand même.
Mes enfants, ils sont encore assez jeunes. Hein. Mon aînée a 7 ans.
Mmh.
Donc, oui, elle comprend. Mais bon, oui, ils soutiennent. Alors, c'est les meilleurs shampoings du monde. Ah, ils
Ah
sentent
bah alors
trop
voilà.
bon. Je l'adore. Il est super ce shampoing, maman.
Voilà. Tu peux
Voilà.
l'engager dans le marketing maintenant.
Ah,
Tu
mais
as
elles ont fait des vidéos. Si tu regardes sur
ta.
Instagram, il y a des vidéos qui sont faites par mes filles.
Ah bah on regardera alors avec plaisir. Travailler dans ce cadre de vie, ça te correspond?
Oui, je crois, assez, oui. Oui, plus nature, avec beaucoup de partage, oui. Ouais.
Ah, et puis avec toute la richesse que tu as accumulée en étant à Dubaï avec cette expérience qui en fait n'est pas si fermée qu'on le pensait, quoi.
Ah oui, non, pas du tout.
Ouais,
Non.
très bien. C'est quoi l'aspect lifestyle que tu préfères chez les Gabonais?
Bah, c'est ça, c'est vivre proche de la nature, être vraiment proche de la nature.
Je suppose que tu peux aller voir les
Vraiment.
animaux régulièrement.
Oui, et puis on en a même dans le jardin. Non, mais vraiment, et les enfants sont beaucoup plus proches de la nature, comprennent comment la nature fonctionne, ce qui manquait beaucoup à Dubaï. Parce que pour le coup, Dubaï, c'est très bétonné, même s'il y a le désert, c'est plus monotone. Et là, les saisons, la nature, voilà, tout ça. Et un autre aspect lifestyle, mais bon, que je vais pas dire que j'aime, mais qui fait beaucoup réfléchir et qui remet les choses à leur place, c'est aussi apprendre à que les choses ne coulent pas de source. Ici, l'eau ne coule pas de source, l'électricité non plus. Au début, ça a été difficile. Mais finalement, pareil, la farine, il y a des moments où il n'y a plus de farine dans les supermarchés. Plein de choses comme ça qu'on n'a pas. Et quand je parle avec des copines ou des gens en France et je leur dis qu'on peut avoir 3 mois sans chocolat, ils me regardent à l'air de dire, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas vivre là-bas, il n'y a pas de yaourt, bah non. Mais en fait, si, on vit très bien et on n'a pas besoin de tout ça.
Ouais, on apprend à faire avec ce manque en fait,
Même pas, en fait,
finalement.
on finit par l'apprécier parce que on
Ah
se
bah
rend
oui.
compte qu'on n'a pas, en fait, tout ça, c'était superflu, on n'en avait pas besoin. Et finalement, faire ses yaourts soi-même, faire attention à l'eau, etc., bah, c'est bien, quoi, enfin.
Bien sûr, bah oui, bien
Et ça
sûr.
gêne pas, en fait. On apprend à plus être gêné par ça.
Ok, c'est hyper intéressant. Et quand tu étais à Dubaï, c'était l'aspect lifestyle que tu préférais.
Ben là, c'est l'opposé.
Il y avait trop.
Voilà, c'est d'aller dans les malls, dans les restos, etc.
Mais c'est bien, tu passes du chaud au froid, froid chaud. C'est intéressant.
On tout commander en ligne avec des applications et on te livre à domicile, même ton essence. Si tu veux, tu peux rester dans ton canapé et ne rien faire.
Ah oui, d'accord. Donc
Ah ouais, et là.
il fallait revenir dans la vie un peu plus réelle alors.
Ouais, je crois qu'on avait besoin de rééquilibrer les choses, même pour les
Bien sûr.
enfants, même pour nous. Ouais.
Bien sûr. Qu'est-ce que tu souhaiterais rapporter de tes expériences en expatriation et de ton expérience entrepreneuriale si tu devais revenir en France, ou
Bah,
quand
de
tu
mon
reviendras en France?
expérience entrepreneuriale, je pense que je ramènerai toute cette expérience au minimum, tout ce que j'ai appris. Et bah, j'espère ramener la marque.
Eh bah oui.
J'espère ramener Akibé. Voilà. Après, de mon expérience d'expat, bah, cette ouverture, cette habitude de s'ouvrir aux autres. Si c'était un objet ici, j'aime bien l'artisanat en rotin. Il y a plein d'artisans super ici. font du rotin, qui font des masques en bois, etc. C'est vraiment très joli. Donc ici, c'est vraiment l'artisanat qui est.
L'artisanat, ouais.
Il y a beaucoup d'économies informelles, hein. Les gens, il n'y a pas d'entreprise, les gens vivent. Alors c'est à la fois c'est très dur pour eux, mais il y a plein de gens qui font des choses de leurs mains.
Bien sûr.
Et moi, je
Et
me
qu'est-ce...
définis un peu comme un artisan aussi. Je fais de mes mains des shampoings
Bah, bien sûr.
de mon.
Mais totalement. Et qu'est-ce qui te manque le plus de France?
La famille, les amis. Boire un bon verre en terrasse avec un peu de charcuterie
Ouais, c'est ça.
les bons restos, ouais, les bons restos.
Et est-ce que ça me fait penser, est-ce que avec ces expatriations, vous avez perdu en route ou pas des amis?
Oui, faut le dire. Là, ça fait presque 8 ans qu'on est parti. C'est difficile de maintenir le lien. Surtout qu'à Dubaï, comme je te disais, on n'avait que 4 semaines de vacances, donc c'est très peu. Donc on prend une semaine en hiver, donc ça fait 3 semaines l'été. Sur les 3 semaines, faut déjà aller voir la famille. Donc on n'avait pas forcément le temps et la possibilité d'aller voir tous les amis, donc on a réduit quand même pas mal. Voilà, on s'est recentré sur quelques-uns, mais après, le peu qui reste, c'est ceux qui sont les plus forts.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, mais comme quoi, voilà, c'est pas tout le temps évident d'être expat.
Non, c'est pas évident. Et c'est vrai que ça, l'amitié à long terme, ben c'est pareil. On s'était fait des amis à force à Dubaï qu'on a perdu. Et là, petit à petit, ben, le lien, c'est pareil. On les voit plus. C'est difficile. Hein. Et en fait, oui, on se fait des amis dans chaque pays, mais difficile de les garder vraiment sur le long terme. Donc ça manque un petit peu d'avoir des gens. Parce que quelqu'un qu'on connaît depuis 8 mois, on peut pas se confier de la même façon que quelqu'un qu'on connaît depuis 10 ans.
Tout à fait. Est-ce que tu as un motto dans la vie?
Oui. Si tu veux, tu peux. C'était ma
Ah
maîtresse de CM1 qui disait ça. Je crois que c'est
bah
resté.
ça t'a marqué, ça t'a marqué.
Madame Brouard, je crois.
Madame Brouard, si vous nous entendez,
Voilà.
Claire a
Il y a
retenu la
longtemps.
leçon.
Et je crois que ça, c'est vraiment ça que je suis. C'est voilà, faut se donner les moyens pour y arriver, quoi.
Oui, tout à fait. Et pour finir notre conversation, est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire The Musette?
Inspirant, ouais, très inspirante, motivante aussi, parce que voir que les autres ont réussi, bah, ça donne un petit coup de boost. Et je pense authentique. Vraiment, les filles, toutes les filles que j'ai entendues là, très authentiques, elles parlaient, voilà, vrai quoi.
Ah, c'est le but, hein, voilà. C'est le but de tout ça. Merci beaucoup Claire pour cette petite conversation entre Amsterdam et le Gabon. C'était très chouette.
Bah, de rien, et puis allez voir Akibé, hein.
Exactement.
On
On
compte
se
sur
tient
vous.
tous au courant. Tout à fait.
On
À
compte sur
bientôt.
vous.
Merci Claire. Merci.
Allez,
Au
à
revoir.
bientôt, merci.
Belle discussion encore une fois, tout en vérité, sincérité et respectueuse. Vous sentez ce vent frais d'entrepreneuriat qui flotte dans l'air de l'expatriation? J'espère que cette conversation entre expats vous aura inspiré et motivé. N'hésitez pas à soutenir Claire en allant voir son témoignage sur notre média, et pourquoi pas en achetant des shampoings au parfum africain. Ou alors en mettant des étoiles sur notre podcast The Musette pour faire briller tous les projets fous à travers le monde. À bientôt pour un prochain podcast d'expatpreneurs.